Le journal Mini Ngouba Moulongo. Deuxième conférence internationale sur le programme désarmement, démobilisation et réintégration des combattants en Afrique. Les travaux ont débuté ce mardi à Kinshasa. Journée internationale de lutte contre le travail des enfants au Kasaï oriental. L'ONG Save the Children affirme qu'au moins 12 000 enfants sont employés et exploités dans les mines de diamants dans la périphérie de Mbujimayi. Et puis dans ce journal également, nous irons à Mbandaka où deux jeunes hommes accusés des contrefaçons de dollars américains ont été arrêtés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la deuxième conférence internationale sur le programme désarmement, démobilisation et réintégration des combattants en Afrique. 200 représentants d'une vingtaine de pays africains et des bailleurs des fonds y prennent part. La conférence a pour objectif de s'attaquer aux défis liés à l'amélioration du processus des anciens combattants en vue de leur bonne réintégration dans la société civile. La conférence est co-organisée par les gouvernements congolais et les bureaux de conseillers spéciaux des Nations Unies pour l'Afrique. Plus de détails avec vous, Nazaire Koko.
Il est principalement question au cours de cette conférence de favoriser les échanges entre, d'une part, les pays africains qui ont réussi le processus DDR, comme le Mozambique, ceux qui l'ont en cours, comme la République démocratique du Congo, et ceux qui viennent de le commencer, comme la Côte d'Ivoire. De l'autre part, il est question de favoriser les échanges entre ces représentants des différents pays et ceux des bailleurs de fonds. L'organisation de cette conférence à Kinshasa témoigne de l'importance que les Nations Unies et la communauté internationale accordent à la reconstruction de la République démocratique du Congo, a indiqué le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, M. William Lassi-Swing. Pour lui, le maillon faible du programme DDR en RDC reste la réintégration des anciens combattants. Et par ailleurs, la réforme du secteur de sécurité passe par ce maillon, a tenu à souligner pour sa part le ministre congolais chargé des affaires étrangères et de la coopération régionale. Selon Antipas Moussa Nyamoussi, la réussite du programme DDR permettra de définir un programme cohérent de réforme de sécurité en RDC et donc le gouvernement congolais attend beaucoup de ses travaux. Ces travaux vont prendre fin le 14 juin prochain et sont entièrement financés par la Belgique et la Suède.
Et puis au Sud Kivu, premier bilan des opérations militaires en cours conjointement entre les FRDC et les casques bleus de la brigade du Sud Kivu, 14 morts du côté des combattants Hutu-Rwandais. Selon les commandants de la brigade du Sud Kivu, c'est la zone comprise entre la forêt des Mugaba à Ninja et le parc national Kahuzi-Biega qui est le théâtre de ces opérations militaires. Le général Kamar Bajwa affirme par ailleurs que la MONUC ne permettra plus aucune perturbation à l'est de la RDC. On écoute au micro de Serge Maïché.
The last operation that we carried out in Ninja Forest, 14 Raftas were killed, and we have.
La dernière opération que nous avons menée dans la forêt des Ninja a causé la mort de 14 Raftas, et nous avons des bonnes raisons de croire que ces gens sont moralement et physiquement appuyés par le FDLR. L'opération qui se déroule ces jours-ci dans la forêt du parc national de Kahuzi-Biega a été lancée après les massacres de Kanyola.
A few things I would like to, for the information of the people of Bukavu, that there's a lot of fear that Mr. Kunda will come from the north.
J'aimerais dire plusieurs choses à la population de Bukavu. Les informer qu'il y a des rumeurs qui circulent. Les gens disent qu'un Kunda va arriver à partir de la province du Nord Kivu et que la ville de Bukavu sera assiégée comme c'était le cas en 2004. La situation de l'an 2004 ne pourra plus jamais arriver. Nous sommes préparés pour défendre la ville de Bukavu. À ce moment, si Kunda était, il aura à faire face à plusieurs forces. S'il ose s'aventurer dans cette partie, il recevra une leçon qu'il n'oubliera jamais toute sa vie.
Notez que c'est depuis plus de deux semaines que ces opérations sont menées dans cette région après le massacre de Kanyola. De l'autre côté au nord Kivu, plus de 6000 déplacés de Mweso à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi vivent dans des conditions difficiles. Arrivés par vagues successives au mois de janvier dernier dans un camp des fortunes, ils fuyaient les exactions de FDLR rwandais. Sur place à Mweso, ils sont obligés de travailler pour les comptes de tierces personnes pour survivre. Déjà, plus de 300 enfants en âge scolaire ne vont plus à l'école. De Goma, Gisèle Cage.
Ces déplacés sont venus essentiellement des villages environnant la localité de Mweso, en territoire de Masisi. Ils sont plus de 1300 ménages arrivés à Mweso au mois de janvier dernier. Ils disent avoir fui l'insécurité occasionnée par des FDLR qui ont tué certains parmi eux et pillé leurs biens. C'était juste après le départ pour le mixage des militaires de leur milieu, affirmait-il. Depuis leur arrivée à Mouisso, ils n'ont reçu de l'assistance en vivres que deux fois grâce au programme alimentaire mondial PAM, successivement au mois de mai puis la semaine dernière. Pour survivre, la majorité de ces déplacés vont cultiver dans des champs de particuliers, moyennant 300 francs congolais par jour de travail. Entre-temps, plus de 300 enfants n'ont plus accès à l'école, selon un des membres du comité des déplacés. Les déplacés de Mouisso déclarent ne pas pouvoir rentrer dans leur milieu bientôt, car, déclarent-ils, les FDLR sont devenus maîtres de leurs habitations et de leurs champs dont ils exploitent les récoltes. Les responsables de la 8e région militaire à Goma sont restés injoignables toute la journée. Gisèle Cache, Goma, Radio Capi.
Comme annoncé au début de ce journal, au Cassé-Oriental, près de 12 000 enfants sont employés et exploités par les mines de diamants qui se trouvent dans la périphérie de Mbujimayi. C'est le constat établi ce mardi par le responsable de l'ONG Save the Children Mbujimayi. Cela à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail de l'enfant. Docteur Jean Valéa de cette structure plaide pour un travail qui accompagne pour la socialisation des enfants. Le point avec Chris Moukand.
Une unanimité semble se dégager au sein de toutes les ONG de protection de l'enfant œuvrant au Kasaï-Oriental, celle de dénoncer systématiquement l'utilisation des enfants à des travaux dangereux et d'exploitation. Docteur Jean Valéa, responsable de l'ONG Save the Children, explique que sur la province du Kasaï-Oriental, les enfants opèrent dans 20 sites miniers. Ils y sont employés à l'extraction, au transport et au lavage des sables et des graviers pour isoler des cristaux de diamants. Ce n'est pas tout, à côté de cette catégorie, existent dans les mines les tompatos, des fillettes dont l'âge ne dépasse guère 12 ans. La nuit majeure, c'est qu'elles sont livrées à une prostitution forcée avec des adultes. Force est également de constater que des enfants de leur âge sont utilisés dans les cimetières où ils creusent des tombes, moyennant 500 à 1000 francs congolais la journée. Le plus courageux reste dans la ville de Mbujimayi pour faire le ménage dans les restaurants. Et à la tombée de la nuit, ils font la sentinelle de ces gargotes avec à la clé un salaire de misère d'un bol de haricots. Face à cette situation, les ONG de protection de l'enfant cancer oriental lancent un véritable cri d'alarme et appelle à la tolérance zéro pour éradiquer cette pratique d'un autre temps. Mbujimayi, Chris Moukande, Radio Capi.
Et puis à l'occasion de la commémoration prochaine de la 16e journée internationale de l'enfant africain, le Bureau international catholique de l'enfance Kasaï occidental sollicite le concours des autorités pour décourager l'exploitation sexuelle de filles de moins de 18 ans. Cet appel intervient après l'identification de différents sites d'hébergement de ces jeunes filles et la sensibilisation sans résultat des auteurs de ces selon Adolphe Bakwaloufou du BICE Kasaï Occidental, ces jeunes sont conduits chaque soir dans différents débits de boissons par des femmes adultes à partenaires multiples. Elles y rencontrent des partenaires et les frais reviennent à leur maîtresse. Adolphe Bakwaloufou est au micro d'André Kambala.
En fait, c'est un constat réel sur la ville de Kananga parce qu'il y a déjà quelques foyers, quelques femmes libres que nous avons déjà même identifiées. D'après nos enquêtes récentes, nous avons trouver que les femmes utilisent les petites filles de moins comme leur chaîne de chasse, c'est-à-dire elles les habillent bien et les envoient dans l'activité de prostitution, les activités d'exploitation sexuelle. Nous avons identifié trois sites, notamment Kamaï Ofida, Décha et Kamounoumba. Nous demandons aux autorités de s'impliquer parce que notre préoccupation c'est de promouvoir les droits de l'enfant. Les filles-là ont leur avenir, mais à partir du moment qu'elles sont utilisées à ces fins-là, nous pensons qu'elles n'auront pas leur avenir tel qu'escompté.
Nous restons au Kasaï occidental pour parler d'une explosion d'une mine antipersonnelle le week-end dernier à Ngalamandé, une localité située à 70 km de Kananga. La population essentiellement paysanne craint de se rendre au champ à cause de répétitions de cas de mine dans la localité. Le cas de ce week-end qui n'a tué qu'un porc est le sixième en l'espace de deux ans. Les révérends Père Célestin Galamouloumé, vicaire routier de ce village, lance un appel aux organismes qui s'occupent de déminage pour venir secourir cette localité. Il est au micro de
c'est depuis le week-end passé que toute la population de Ngalamandé vit dans une panique générale. Ces gens qui vivent de l'agriculture ne savent plus aller au champ pour cause de la mine antipersonnelle qui vient d'éclater. Heureusement pour cette fois-ci, c'est sur un cochon. C'est la panique générale. Les gens ne se rendent plus au champ. Les gens ne savent plus travailler. Et pourtant, ici au café, c'est la période même pour les champs. Alors, vous voyez ce que ça donne ici, dans le village de Ngalamandé. Pour rappel, c'est la sixième mine antipersonnelle. Il y a eu un mort, trois amputés, plus deux bêtes. Les deux bêtes, c'est une chèvre et un cochon, le dernier cas. Ça fait maintenant six fois qu'on fait appel aux organismes pour qu'ils viennent en aide à cette population, mais curieusement, personne ne vient. Je lance donc un appel à petit pour qu'on vienne en aide à cette population.
Au Katanga, l'entreprise générale Malta Forest, majoritaire dans la mine de Lusuishi, déclare que le taux de radioactivité n'est pas anormal sur ces sites, contrairement aux déclarations faites ce week-end par le ministre provincial de Mines et des Affaires foncières. Déclaration faite hier lundi à la presse de Lubumbashi. L'entreprise Malta Forest affirme qu'il existe toutefois de poches qui ont un taux de radioactivité anormal. On écoute à ce propos les conseillers en communication de Georges Forest International, Henri de Arène, au micro de Paul Kaboba.
On était déjà tombé sur une poche qui était peut-être un peu moins forte, mais ça n'a aucune importance en soi. Et on a fait ce qu'on devait faire, conformément aux normes internationales. On l'a enlevé en prenant toutes les normes de sécurité nécessaires et on l'a enfoui sous des remblais stériles. Alors aujourd'hui, il y a une autre poche, en fait dans la paroi, dans le mur de la mine, en dehors du gisement, un endroit où on ne va pas et où on ne travaille pas. On pourrait l'enlever en soi, ça ne change rien. Ce serait maximum une benne de mine. Eh bien, et on la mettrait en dessous d'un de remblai stérile, ce qu'on fera peut-être. La seule chose que je peux dire à ce sujet-là, c'est qu'il n'a été question dans les médias que de cette toute petite poche, de ce tout petit détail, et que jamais il n'a été dit que la moyenne radioactive était la même en soi, ou peut-être très très légèrement, mais on est toujours 100 fois inférieur à ce qui pourrait être dangereux, eh bien la moyenne de la mine est égale à celle de la ville. Ça, malheureusement, ça n'a pas été dit. C'est ce qui devrait être dit.
Maniema, à présent, les collectivités Moulou et Maringa en territoire de Kasongo désormais reliées, cela grâce au pont érigé sur la rivière Kunda à 155 km de Kindu. C'est l'ouvrage de l'ONG de développement concerne basé à Kasongo. Aussi, avec ce pont, la zone de santé de Kunda pourrait approvisionner toute son aire de santé à partir de Kipaka, siège du bureau central de cette dernière. Un reportage de Mathieu Igunga.
La pose du pont d'une quinzaine de mètres sur la rivière Kunda est un os de soulagement pour ses habitants. Cet ouvrage revient résoudre une bonne partie des difficultés de la population en rapport avec les traversées qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Des piétons, des malades et des passagers à bord de véhicules ne pouvaient pas passer d'une rive à l'autre de cette rivière. L'ancien pont avait été emporté par les eaux de pluie il y a plus de 10 ans. Maintenant qu'il est reconstruit, le trafic a repris sur ses tronçons reliant les deux collectivités Maringa et Mou. Les véhicules, les motos et les passagers peuvent facilement se déplacer sans aucune crainte. Signalons que l'ONG de développement concerne, dans le souci de voir les habitants du territoire de Kasongo circuler librement, a aussi jeté un autre pont sur la rivière Kitanda, sur la route des dessertes agricoles de Mumba et Mwema vers Mingana, en collectivité de Moulu, toujours en territoire de Kasongo. De Kindu, Mathieu Ilunga Chamboyo, Monachebe Radio, Okapi.
Le groupe mobile d'intervention de la police Équateur a arrêté hier lundi à Mbandaka deux jeunes hommes accusés des contrefaçons de dollars américains. C'était au moment où ils étaient à la recherche d'un client qui devait leur donner des billets à multiplier pour un total de 50 000 dollars. Plus de précision avec Askin Zibia.
C'est ce lundi de la matinée que Fiston Mukemba et Bumana Lianza, alias Fati, ont été surpris par la police dans le bureau du comptable public affecté à l'inspection provinciale de la santé. Selon le comptable Henri-François Lokouli, ces deux hommes dans la vingtaine sont venus le contacter dans son bureau pour l'associer dans l'affaire de multiplication des dollars. Ce marché n'a pas intéressé le comptable qui, selon lui, ne pouvait pas mettre la main dans la caisse de l'État pour servir des billets verts à ses frappeurs. Il a appelé la police qui a arrêté ce suspect avec dans la main des clichés qui pouvaient fabriquer 50 000 dollars en plus d'un manuel sur la fabrication de faux billets. Selon la police, un des frappeurs d'argent est venu de Bangui, capitale de la République centrafricaine, et ne porte aucune carte d'identité. La police de Jemi devra transférer le dossier au parquet après son investigation. Saisi de cette situation, le gouverneur de province appelle les Équatoriens à la vigilance. De Mbandaka à Skezik de Tayoro, Radio Okapi.
La composante jeune de la société civile d'Uvira réclame la reprise des émissions télévisées de la chaîne nationale. Interrompue depuis plus de 6 mois, son président Baleke Mwanawa Fame l'a dit au cours d'une rencontre des jeunes étudiants avec l'autorité territoriale d'Uvira. Ces émissions avaient été interrompues juste après la campagne électorale du deuxième tour de la présidentielle. Un problème d'énergie électrique serait à la base de cette interruption. Le point avec Fiston Goma.
Au cours de la rencontre de vendredi, le président des jeunes a déploré les promesses non tenues par les autorités locales. L'administrateur du territoire a indiqué que des contacts étaient en cours avec des fournisseurs locaux pour compléter la partie des câbles qui restent, ainsi que les accessoires de matériel électrique conformément aux devis présentés par la Société nationale d'électricité, la SNEL. En effet, les travaux d'installation avaient été effectués par l'organisation Téléconsulte 4 mois avant la campagne électorale présidentielle du premier tour en 2006. Mais selon la plupart des téléspectateurs, aucun signal n'a été reçu depuis 6 mois, en dehors de quelques rencontres sportives de l'équipe nationale et les votes du budget 2007. La SNEL avait présenté un devis de $13 000 américains, comprenant un câble de 380 mètres avec des accessoires électriques pour les raccordements spéciaux de la RTNC. Ce devis a été revu à la baisse jusqu'à $4 000 américains, correspondant à la valeur d'un câble souterrain de 280 mètres que l'autorité locale a offert à la RTNC. Depuis 6 mois, ces câbles triphasés souterrains traînent encore par terre et n'est jamais installé. Depuis Ouvira, Fistango Mamayaba, la Radio Capi.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité.